Oui, vraiment, la protection des océans, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais beaucoup qu'on arrive à trouver des voies d'action, des choses réalisables et surtout de les faire.
Hope in Action, un podcast de Greenpeace Belgique.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Annelise de Greenpeace et vous écoutez Hope in Action. Hope in Action, c'est le podcast dans lequel on revient ensemble sur une action de Greenpeace. Et aujourd'hui, on va parler bateau. Alors, pour m'accompagner, je suis avec Audrey. Bonjour, Audrey.
Bonjour.
Yay! Comment tu vas?
Ça va super bien.
T'es en Belgique?
Oui.
T'es pas sur un bateau, c'est trop chouette?
Pas pour le moment.
Eh bien, du coup, qu'on parle un peu de toi. Tu es activiste depuis un bon moment. Et j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a dit à un moment donné, genre... Mais maintenant, il faut que j'agisse, il faut que je prenne les choses en main et que je fasse quelque chose.
C'est une grande question. C'est un peu compliqué parce que je crois qu'il n'y a pas eu un seul moment. C'est une suite de réflexions qui durent depuis très, 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 très longtemps déjà, qui ont fait que j'ai quitté mon travail, que j'ai passé longtemps à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai eu une opportunité, en fait, avec des formations en reconversion professionnelle. Je suis entrée en contact avec une association qui fait de l'éducation populaire, donc des animations sur des sujets de société, par l'art et de manière ludique. Et j'ai rencontré quelqu'un dans cette association avec qui on s'est tout à fait compris tout de suite. Et on a commencé à faire des actions ensemble sur divers sujets. Et un jour, il est venu me trouver en disant qu'il y avait une action là où j'habite, donc à Namur, par rapport au CETA. Donc, c'était un traité commercial entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et il m'a demandé si je voulais y aller. C'était le jour même, il fallait dire oui tout de suite, enfin, ou non.
Tu t'es dit genre,
donc,
let's go.
J'y suis allée, let's go. Et il se trouve que dans cette action, il y avait des gens de chez Greenpeace. Et donc, quand j'ai entendu le nom Greenpeace... ça faisait tellement longtemps que je rêvais de rencontrer quelqu'un de là-bas et que je sache finalement comment rejoindre ces farfelus activistes qu'on voit de temps en temps à la télé ou dans les journaux. Donc j'en ai agrippé un, j'ai dit « donne-moi un contact chez Greenpeace, s'il te plaît
». Carrément.
Et donc, mais ils étaient tous très sympas et donc c'était vraiment une opportunité en fait à un moment et dès qu'il m'a donné le numéro de téléphone, dès le lendemain, j'ai téléphoné, je suis entrée en contact avec quelqu'un de chez Greenpeace et oui, c'est comme ça que tout a commencé en fait. Je suis devenue volontaire.
C'est ça, donc du coup, tu es aussi volontaire dans un groupe local, c'est ça?
Oui.
De celui de Namur, du coup.
Celui de Namur, oui.
Et vous faites beaucoup encore maintenant des actions ou
On a été très actifs pendant plusieurs années. Malheureusement, ces derniers temps, on l'est moins parce que avec. Cette formidable période qui a concerné le virus dont on n'a plus envie de parler à l'heure actuelle. On a perdu énormément de gens et donc c'est un peu dur pour le moment de relancer les troupes. Mais j'ai bon espoir qu'à un moment on refasse plein de choses à Namur.
Mais écoute, du coup on passe un message à tous nos auditeurs et auditrices. Si vous êtes dans la région de Namur et que vous voulez rejoindre le groupe local... Ça se passe sur greenpeace.be. Agir avec nous, devenir volontaire ou rejoindre un groupe local, c'est
tout
là.
Tout à fait.
Audrey vous attend. Et du coup, là, ça fait maintenant... Donc, tu as été activiste, tu as été volontaire et maintenant, tu es sur les bateaux.
Oui.
Tu t'es dit à quel moment, genre, je vais aller sur un bateau, quoi.
Alors, de nouveau, ça a été vraiment une opportunité. Et, j'ai envie de dire un coup de chance. Chaque fois que je dis ça, les gens me disent « la chance, ça n'existe pas, c'est toi qui as créé ta chance ». Mais... J'ai reçu, donc en tant que volontaire en fait, j'ai reçu un email une année juste avant Noël. C'était mon cadeau de Noël. Un email qui s'intitulait « Qui veut visiter nos bateaux ? Le premier à répondre seront les premiers servis ». Et donc j'ai répondu dans la seconde, je crois que j'avais jamais répondu aussi vite à un email.
Il n'y avait même pas un tulip, rien, juste moi.
oui, voilà, je veux. Et donc, on a été avec une équipe de chez Greenpeace. C'était une équipe diversifiée. Il y avait des volontaires, il y avait des activistes, il y avait des campaigneurs, il y avait des photographes, il y avait des gens d'un peu tous les départements du bureau, en fait, qui ont été envoyés en équipe sur le bateau.
On est resté, je ne sais plus si c'était 2 jours ou 3 jours à bord, c'était vraiment assez court, mais on a eu la chance quand même de, pendant ce temps-là, de naviguer. C'était pas juste une visite au port. Donc on a embarqué, on est parti en mer, on a pu dormir à bord, on a pu discuter beaucoup avec les membres d'équipage. Et quand on est revenu au port, donc dans un autre port à Delfzijl, dans le nord des Pays-Bas, J'ai complètement bloqué sur les navires. Je parlais plus que de ça et c'était la seule chose que je voulais faire de ma vie après ça.
Okay, au moins tu
je suis complètement tombée amoureuse du navire, de l'équipage, de la mer et je suis complètement tombée amoureuse de ça en 2 jours quoi. Donc voilà. Et puis plus tard, j'ai fini par postuler pour devenir volontaire à bord et voilà, de fil en aiguille, maintenant je travaille à bord.
J'aime bien comme tu suis le vent quoi. T'es là,
ah, ouais.
Opportunité, je vais là. Opportunité, je vais là. Aujourd'hui, donc, on a 3 bateaux, comme tu l'as dit. Il y a le Rainbow Warrior qui est l'emblématique voilier. C'est celui qu'on voit le plus et il est magnifique, ce bateau, qu'on soit d'accord. On a l'Arctic Sunrise qui est un brise-glace. Donc ça, c'est plutôt pour les régions polaires. Et le Witness, c'est le petit dernier. C'est le plus écologique aussi. Et donc, toi, tu as été sur quel bateau?
Alors, pas encore tous, non.
Ouais.
Donc, ma toute première visite de 2 jours s'est faite sur l'Arctic Sunrise, sur le brise-glace. Et mon premier voyage en tant que volontaire matelot, donc le boulot que je fais maintenant, donc mon premier long voyage, je l'ai fait à bord du Rainbow Warrior.
Ok, et tu as déjà été sur l'Esperanza?
L'Esperanza, alors j'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois, mais je n'ai jamais été en mer avec l'Esperanza.
Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, l'Esperanza, c'était un bateau qui a pris la retraite il y a 2 ans maintenant, en 2021. Mais c'était aussi un des bateaux les plus emblématiques de Greenpeace, qui nous a très très bien servi. Du coup, pour revenir à toi, parce que moi j'ai plein de questions. c'est quoi ton rôle à bord? Donc la première fois, c'était juste une visite, et
oui.
T'as un peu aidé, t'as un peu tout découvert.
Oui, tout à fait.
La deuxième fois, pareil.
Alors maintenant, je suis matelot. Alors les matelots, c'est la plus chouette position à bord.
Dis-moi plus.
Donc c'est une position qui est très polyvalente. Donc on participe à la vie de tous les jours, des tâches de tous les jours à bord. Je veux dire les plus basiques, on participe au nettoyage, on participe au rangement, à maintenir un peu le navire en bon ordre, en bon état de propreté, de sécurité aussi. Et on fait énormément de choses qui sont, je peux dire entre guillemets, un peu plus intéressantes et diversifiées, comme on participe à la navigation, donc sur le Rainbow Warrior qui est un voilier, on participe aux opérations avec les voiles. On fait toutes les opérations de maintenance, de réparation, on fait des boulots de peinture, on participe forcément à la partie Greenpeace, si je peux dire, du travail. Donc, on participe aux campagnes. Quand on est en campagne, on aide les équipes de campaigners qui viennent à bord. On fait des bannières, on fait des sorties en bateau avec eux pour aller observer certaines choses ou étudier certaines choses. On fait vraiment de tout. Et alors, vraiment, ce qui est gai, c'est qu'en tant que matelot, on voit un petit peu, je dis c'est le plus polyvalent parce que si je prends l'exemple des autres positions, quand on est ingénieur, bah forcément on travaille dans la salle des machines. Quand on est radio-opérateur, on est la plupart du temps dans la salle de radio. Quand on est officier, la plupart du temps on est sur la passerelle. En tant que matelot, j'aide un peu tout le monde en fait.
Du coup, t'as pas vraiment envie de changer pour l'instant?
Ah non.
Tu vas garder celle-là.
Ouais, je crois bien. C'est une question qui revient très souvent. Ça, est-ce que t'as l'ambition de monter en grade, de devenir officier, tout ça? Mais non, en fait, je suis très bien dans ma position. Je suis contente de voir un peu tout ce qui se passe ailleurs sur le navire. Donc ouais.
Franchement, c'est mieux comme ça. Franchement. Et tu pars combien de temps comme ça en moyenne quand c'est une mission?
Alors, les périodes de rotation, donc c'est les mêmes pour tous les membres d'équipage. Et donc, on est 3 mois à bord, 3 mois à la maison.
Ok, donc ça fait 6 mois par an.
Oui.
Ok, oui. Donc oui. Du coup, tu organises ta vie en fonction.
Oui, tout à fait.
Pour moi, je suis contente à bord, donc j'ai dit oui pour plus long. C'est trop chouette. Et du coup, comme ça, tu es dans une cabine qui est partagée?
Alors, les cabines, oui. Quand on est que l'équipage à bord, on a en général une cabine par membre d'équipage, mais on peut mettre 2 personnes par cabine, dans toutes les cabines. Et donc, quand on accueille une équipe de campaigners à bord, chaque personne partage sa cabine avec quelqu'un d'autre.
Ah oui, donc en fait, la plupart du temps, t'as ta cabine perso et t'entends, t'as des invités, quoi.
Oui, tout à
quelqu'un
fait.
Quelqu'un qui s'appelle incruste pour quelques jours.
Oui.
Et on les accueille avec plaisir, évidemment.
Oui, 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 c'est super, super chouette d'ailleurs, parce qu'on découvre des gens d'un peu partout et on apprend... on apprend plein de choses. Après, une fois qu'on partage notre cabine avec quelqu'un, bah oui, il y a une relation qui se crée très vite. On papote dès qu'on a du temps libre. Et on est, je vais dire, la personne à qui c'est plus facile de poser des questions. Où est-ce que ce truc-là, où est-ce que je peux trouver une serviette pour ma toilette? Où est-ce que je peux aller pour trouver telle ou telle chose ou comment, parfois, ils posent des questions sur la vie à bord aussi. En fait, comme on le fait ici, on raconte un petit peu ce qu'on fait de nos journées.
Justement, ça ressemble à quoi une journée type?
On commence notre journée à 8h du matin. Et ça commence toujours par le nettoyage du matin. On nettoie, chaque personne prend une zone du bateau à nettoyer. Donc il y a une personne qui fait les couloirs, une personne qui fait les toilettes, une personne qui fait les douches, une personne qui fait le réfectoire, des choses comme ça. Ça, c'est toujours la première tâche du matin. Après, on dispatche un peu le travail. Probablement une ou deux personnes qui vont enlever la rouille quelque part sur le navire. Ça, c'est un boulot sans fin. Il y a toujours les navires sont en métal.
C'est
donc,
ça, il y a toujours de l'eau.
Il y a toujours bien, voilà, on est en mer, on est entouré d'eau. Il y a toujours bien un endroit sur le navire qui est rouillé. La rouille, on la laisse pas trop s'installer. Donc, en général, dès qu'on a du temps pour ça, on va retirer la rouille, on va remettre une couche de peinture.
Et tu travailles combien d'heures par jour, par exemple?
8 heures.
Ah ok, donc c'est vraiment des rotations.
Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, 8 heures.
Je ne sais plus.
Oui, oui, donc 8 heures. Et donc, l'horaire de jour, donc c'est de 8 heures du matin à 17 heures, avec forcément une heure de pause à midi. Et quand on est en mer, il y a 3 matelots qui font un horaire différent, qui font un horaire de quart. Et donc, c'est aussi 8 heures, on travaille aussi 8 heures, mais divisé en deux. Et donc, les quarts, il y a 3 périodes de quart sur la journée, c'est de 8 heures à 12 heures, de 12 heures à 4 heures, et de 4 heures à 8 heures.
Ok.
Dans cet horaire-là, ça, c'est 3 personnes qui alternent et qui le font. Les 4 heures qui se passent pendant la journée, on rejoint l'équipe des autres matelots et on fait le boulot avec tout le monde. Les 4 heures qui se passent pendant la nuit, puisqu'il y a 4 heures la nuit, alors là, on est sur la passerelle avec les officiers et on fait de la surveillance, on travaille avec les voiles si on est sur le Rainbow Warrior, on fait les rondes de sécurité, c'est un boulot un peu différent.
Ok, et du coup, ça devient pas un peu parfois... Il n'y a pas les tensions qui seraient à vivre genre 3 mois non-stop, jour et nuit, avec la même personne?
Alors, je pense que ça dépend de l'équipage. Mais pour ma part, jusqu'à présent, je considère que j'ai été très chanceuse parce que je n'ai pas vraiment vécu de situation tendue ou compliquée. Je veux dire, les gens, c'est un peu bête de dire ça, mais les gens sont gentils les uns avec les autres. On est précautionneux, on est tous conscients. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent en mer, qui sont marins, qui connaissent ces conditions de vie et de travail. L'équipage, c'est entre 15 et 17 personnes, je pense. Et le Rainbow Warrior fait 60 mètres de long. L'Arctic Sunrise fait 50 mètres de long. Il y a de la place. Quand on n'a pas d'équipe de campaigneurs à bord, on a notre cabine pour nous tout seuls. Si on a envie d'avoir un peu du temps dans notre bulle, on peut toujours aller dans notre cabine où il y a toujours moyen de trouver un espace quelque part où il n'y a personne. Et quand on a envie de passer du temps ensemble, on va dans un endroit commun et il y a toujours des gens pour jouer de la musique ou jouer à des jeux.
Ça a l'air tellement chouette quand on parle. En plus, sur ceux qui nous écoutent ne voient pas ton visage, mais tu rayonnes quand on parle. Mais du coup, je voulais juste rappeler aussi que donc on voit surtout des actions et tout, c'est ça que vous faites, qui est le plus visible de ce que vous faites, mais vous allez aussi intercepter des cargaisons illégales de bois ou de soja, vous regardez, d'essayer de repérer les activités de pêche illégales, vous récoltez des preuves de tout ça pour pouvoir faciliter les inculpations et vous facilitez aussi des expéditions scientifiques. C'est important de rappeler que c'est pas juste des bateaux qui vont faire des jolies photos en plein milieu pour attirer l'attention.
Ah oui, non,
mais il y a aussi un vrai goal quoi, dans ces bateaux. C'est pour ça que c'est vraiment super important de les avoir.
Oui.
Et j'avais envie d'avoir ton meilleur souvenir jusqu'ici. Que ce soit une action, que ce soit quelque chose que vous ayez repéré, quelque chose.
Ah, j'ai tellement de beaux souvenirs déjà. Mais non, voilà, une période d'action qui a été vraiment intéressante pour moi, ça s'est passé en France, c'était l'été 2022. Ça a duré plusieurs jours en fait. Et on était deux bateaux en même temps dans un port... donc il y avait le Rainbow Warrior et le Witness, nos deux voiliers, qui étaient en même temps à Cannes. Parce qu'il y avait à ce moment-là un festival des publicitaires. Donc c'est le même principe, c'était aussi important, je veux dire, que presque que le festival du cinéma à Cannes. Sauf que là, c'est pour les entreprises qui font de la publicité. Mmh. Et Greenpeace a une campagne, Greenpeace International en tout cas, a une campagne pour essayer de faire interdire la publicité pour les énergies fossiles, tout comme on a fait interdire, pas Greenpeace seulement, il y a eu beaucoup d'associations qui ont pris part à ça, mais comme on a fait interdire il y a pas mal d'années déjà la publicité pour le tabac. Mmh. Ils voudraient essayer de faire la même chose pour les énergies fossiles. Donc on était là pour ça. Et alors pendant plusieurs jours, on a un peu joué la carte du harcèlement. On est arrivé, il y a eu une première action avec une projection d'image sur entre les mâts du Rainbow Warrior. Puis le même soir, il y a quelqu'un qui est allé s'introduire dans le festival, un ancien gagnant en fait du festival qui a maintenant rejoint les rangs de Greenpeace, oui. Qui s'est entre guillemets repenti. T'as entendu parler de ça ?
Oui, j'ai vu ce truc.
Ça a été incroyable. Qui est allé rendre son prix en disant je ne participerai plus à ça tant que vous changez pas votre fusil d'épaule. Le lendemain, il y a des gens qui, dans toute la ville, ont collé des affiches avec des messages, avec un mème en fait, qui a circulé sur Internet avec un chien qui est dans une maison en feu et qui lit son journal et qui
tout
dit
va
tout
bien.
Va bien. Et donc, ils ont collé ces affiches-là partout dans la ville. Chaque fois qu'ils se faisaient interpeller par la police, ils allaient juste 100 mètres plus loin et continuaient à coller. Le jour suivant, il y a eu une action de nouveau sur le palais des festivals. Avec un camion de pompiers, je ne sais pas comment quelqu'un avait de chez Greenpeace avait réussi à aller jusque-là avec un camion de pompiers. Ils ont hissé la grande échelle, quelqu'un est monté sur la grande échelle pour aller dérouler une affiche, enfin une bannière. Enfin, c'était extraordinaire. On était chaque jour, il y avait un truc. Ça venait parfois du Rainbow Warrior, parfois du bureau, enfin du bureau local du pays. Parfois ça venait, on a essayé du witness, c'était plus compliqué du witness pour diverses raisons. Et alors chaque fois la police arrivait évidemment chez nous avec leur petit bateau et qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que vous voulez bien arrêter? Alors j'étais la seule à ce moment-là, personne de l'équipage qui parlait français, donc je faisais l'interprète pour la police. Et donc c'était j'adorais parce que du coup j'étais au courant entre guillemets de ce qui se disait, de ce qui se passait. Ils venaient chaque fois s'adresser à moi. Et à chaque fois, il demandait d'arrêter. Alors, le capitaine à côté de moi, il disait oui, il obtempérait, on va arrêter, d'accord, on va baisser la bannière, tout ça. Le lendemain, on refaisait autre chose, quoi. Et donc, la police revenait. Et alors, on vous avait demandé, on a obéi, on l'a fait. On n'est pas au courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas d'ici, c'est pas du navire. Et ça a été un déploiement de différentes forces d'action qui étaient combinées, qui étaient vraiment super intéressantes à voir et à participer.
C'est l'énergie qui est sur place, quoi.
Ouais, c'était vraiment génial. Sinon, dans un autre registre, j'ai un souvenir qui est incroyable. Dans les derniers jours de mon premier voyage en tant que volontaire, vraiment dans les tout derniers jours, j'étais encore de quart de nuit et je sentais déjà un peu la tristesse de devoir bientôt débarquer. On était en Méditerranée et j'ai eu j'ai eu vraiment le sentiment que la mer me disait au revoir. Cette nuit-là, on a eu de la bioluminescence dans l'eau.
Oh,
donc
magnifique.
C'est des algues et des planctons qui deviennent lumineux, bleu vert lumineux, avec les mouvements d'eau. Et il y en avait beaucoup. Et alors cette nuit-là, il y a des dauphins qui sont venus nager à côté de la coque du navire dans la bioluminescence, quoi. Et donc, pendant des heures, j'ai vu des dauphins nager et devenir genre vert fluo dans la bioluminescence. C'était une image. Je suis très triste de ne pas avoir pu filmer, mais en même temps, c'est tellement vivant dans mon esprit. C'était tellement incroyable. Et dans les derniers jours de mon premier voyage, ça a vraiment été comme un. Allez, au revoir, à bientôt, reviens-nous vite. Enfin, ça, c'était un de mes plus beaux souvenirs de choses que j'ai vues, je vais dire, quand j'étais à bord.
Mais tu m'étonnes! Je suis un peu jaloux. Ok, alors question plus pratico-pratique.
Mm-hmm.
Comment est-ce qu'on va sur le bateau? Dis-nous tout. Comment est-ce qu'on postule? Comment est-ce qu'on se fait engager?
Alors, quand on n'a pas spécialement de contact. Il y a une page internet en fait sur le site de Greenpeace. C'est naviguer avec nous, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est un peu le même principe que pour devenir volontaire, mais il y a un autre onglet.
C'est sur le site de Greenpeace International.
Oui, pardon, tout à fait. Et alors, en cliquant là, on peut postuler directement, en fait.
Et du coup, il faut de l'expérience en mer pour pouvoir postuler.
Et non.
Non.
Et non, parce que justement, voilà, c'est là que j'allais en venir aussi, c'est que du coup, il y a possibilité de postuler comme volontaire. Volontaire matelot, alors en général, bref, pas que en fait, parce qu'on peut être aussi assistant cuisinier si on veut. C'est une position qui est souvent nécessaire à bord, parce que le cuisinier travaille pour beaucoup de monde, et 7 jours sur 7. Donc les gens qui veulent passer quelques semaines à bord, il y a moyen d'être assistant cuisinier.
Okay.
Et ça peut se faire, ouais, sans avoir jamais navigué.
Eh ben écoute, du coup, on va mettre le lien pour postuler, pour voir tous les jobs ouverts dans la description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller voir la description. qu'est-ce que tu aimerais bien voir changer d'ici 3 ans, par exemple ?
Y a deux choses qui me viennent à l'esprit assez vite. La première, c'est, on a parlé principalement navire. C'est clair que depuis que j'ai commencé à découvrir la vie en mer, je suis vraiment tombée amoureuse de l'océan. Et surtout, être en mer quand on est, je vais dire, sans terre autour, face aux éléments, à la météo, aux vagues, on est beaucoup plus en contact avec la nature, avec son état, avec la nécessité finalement qu'elle soit en bonne santé et de la préserver. Et donc j'aimerais beaucoup maintenant que la voie s'ouvre pour commencer à faire accepter qu'il faut qu'on protège nos océans. J'aimerais que ça continue dans cette voie. Qu'on ne parte pas sur des plans de prospection minière et de ce genre de choses qui sont sur la table actuellement. Ouais, vraiment, la protection des océans, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais beaucoup qu'on arrive à trouver des voies d'action, des choses réalisables et surtout de les faire. J'aimerais voir changer un peu la tendance sur le fait qu'à l'heure actuelle, quand il y a une action, ce sont les industriels finalement qui sont protégés et dans leur bon droit, et les activistes qui se retrouvent avec la police, avec des amendes, avec éventuellement des procès, avec éventuellement des très lourdes conséquences. Avec Greenpeace, on fait de l'action qui est non violente. On veut surtout montrer, dénoncer entre guillemets ce qui se passe à tel endroit pour que les gens soient au courant, tout simplement, parce que souvent les pires choses qui se passent sont très cachées. Donc bien souvent, c'est pour mettre en lumière certaines choses, on ne détruit rien, et pourtant c'est nous, entre guillemets, les criminels, bien souvent. Et les lois vont de plus en plus dans ce sens, criminaliser les gens qui dénoncent et protéger ceux qui font
les vrais écocides. On a passé un écocide chez nous, c'est des crimes contre la nature, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qui change aussi. Voilà.
On t'entend, on est dans la même direction. Mais du coup, merci beaucoup Audrey d'avoir accepté de partager ton expérience sur les bateaux.
Avec plaisir.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Hope in Action. La prochaine fois, on reviendra sur une autre action de Greenpeace avec un ou une nouvelle invitée. Et si vous aussi, vous voulez contribuer à une planète plus juste et plus verte, rendez-vous maintenant sur hopeinaction.be. Le lien est en description.